Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket time, c'est parti. Votre podcast basket sur RMC tous les mardis sur rmc.fr avec un spécial début de saison, car ce début de saison est très excitant. Nous allons parler de Wembanyama, nous allons parler de James Harden avec la Dream Team. Fatiguée, la Dream Team, parce qu'elle commande des matchs de NBA la nuit. Bonjour Fred Weiss.
Bonjour.
Parce qu'elle revient de San Antonio. Salut Arnaud.
Salut tout le monde.
Arnaud. Et parce qu'il est aussi fatigué que fatigant, c'est Stephen Brun.
Je me fatigue moi-même. Salut Pierrot, salut tout le monde.
Est-ce que des fois tu te fatigues toi-même quand tu entends tes vannes?
Rarement.
Non, c'est vrai que tu es bon public à tes propres vannes.
Mais le principe,
tu fais une vanne et tu rigoles
derrière. Le principe d'une blague, c'est si elle te fait rire toi, elle est bonne.
C'est ça le principe d'une vanne.
Oui. Ah,
c'est pour ça que
tu fais pas moins le principe.
Ouais. Non, jamais t'as eu envisagé de monter sur scène?
Non, jamais. Sur la scène, ouais, éventuellement.
Après c'est vrai que pendant ta carrière de basketteur, bon, c'était un peu one man show quand même. Hein.
Pourquoi tu dis ça?
Bah, tu faisais le show quand même, non?
Je joue au basket, avec mes qualités, mes défauts, je sais pas.
Fred était un joueur plus discret, par exemple.
Ah, je suis pas sûr.
Ah ouais,
t'avais agressif contre lui,
Thomas.
Non, mais je parle dans l'attitude. Je parle pas du jeu.
Ah ouais. Tu
parlais à tes adversaires?
Non. Ça sert à rien.
Tu disais, toi, Jacques Monclar, la vie de ma mère, je vais te. Tu l'as dit ça, Fred?
Jamais je dis ça. En plus, ça a été mon coach, Jacques Monclar. Donc, non, moi, je disais rien.
Non, c'est plutôt Jacques qui s'était énervé sur Steve, d'ailleurs. On le salue, Jacques. J'espère qu'il écoute Basket Time.
Bonjour, Jacques.
On peut raconter l'histoire parce que c'est bien longtemps. Non, mais c'est pour ça que je me permets.
Quand tu fais Dijon, je m'étais embrouillé d'abord avec son assistant, qui était Jean-François Evert, je crois. Et je sais pas, Jacques est rentré dans l'embrouille. Il voulait m'attendre dans le couloir pour me sécher.
On les salue tous les deux. Alors, le programme de ce spécial début de saison NBA, les débuts de Wembanyama sont-ils satisfaisants pour vous, oui ou non? C'est une pauvre équipe des Spurs dans laquelle il atterrit, malheureusement. Ça va faire partie du débat. Et puis, le trade de Harden aux Clippers, James Harden y arrivera-t-il un jour? Il change encore de projet, il est encore associé à des mégastars. Est-ce que cette fois-ci ça va marcher? On va en débattre dans la deuxième partie, juste avant la partie historique. Quel Harden préférez-vous? Voilà, est-ce que dans sa carrière, sa longue carrière et ses nombreux échecs, il y a un James Harden que vous préférez aux autres? Vous nous le direz tout à l'heure. Et puis le quiz, ce sera une boucle qui démarrera de James Harden et qui se finira
à Sedan.
Avec James Harden. À Sedan, pourquoi pas, j'aurais pu faire ça, tu sais. Ça me plaît, c'est dommage que j'ai pas eu l'idée, tu vois, je regrette déjà. Allez, c'est parti pour Basket Time, tous les mardis, à télécharger sur rmc.fr.
Sensational. He can change the game, the NBA game.
Hey,
this kid does stuff you've never seen anybody do.
Wembanyama on the drive. He scores!
Man, one of the best defensive prospects we've ever seen.
I got a bright future, man. Obviously, he's one of a kind type of player, and he's going to keep getting better each and every year. Just unfortunate that we won a game, so...
Wow, I'd never seen skill like that with a player so tall. Wembanyama spins inside and puts it off the window and in.
And I'm so determined that the expectations of others are nothing compared to what I expect of myself.
Go Spurs, go.
Alors, les débuts de Victor Wembanyama, est-ce que vous trouvez qu'ils sont satisfaisants? Est-ce que vous restez sur votre faim? Trois matchs pour l'instant. Une seule victoire contre Houston avec une moyenne de 15,7 points, 7,3 rebonds, 1,7 passes décisives. Arnaud Valla, dont tu rentres de San Antonio. Est-ce que les Américains se posent la même question que nous? Est-ce que ces débuts sont mitigés ou est-ce qu'ils sont salués par les Américains?
Moi, j'ai pas entendu d'Américains, de fans ou journalistes remettre en cause le début de saison de Victor Wembanyama. Ils sont plutôt tous conquis en mettant en contexte et en perspective l'environnement Spurs et cette équipe qui fait que, va pas forcément faire les playoffs, qu'elle est en totale reconstruction, qui a une bonne base intéressante, mais qui a énormément de boulot. Et surtout dans cette conférence Ouest qui est une espèce de fosse aux lions, ça s'annonce compliqué. Et juste ce qui ressort là ces derniers jours, notamment après son match aux Clippers, c'est où Victor Wembanyama se situe en production de rookie. Par exemple, si tu prends la classe 2023, il est le premier en points, le deuxième en rebond, premier en interception, troisième en bloc, pour seulement le cinquième temps de jeu. C'est vrai que ces 23 minutes lors du premier match contre Dallas fait qu'il est un petit peu derrière, et même on commence à le comparer à d'autres rookies, et en se disant que ce que fait Victor Wembanyama, ses 15 points et un peu moins de 7 ou 8 rebonds, peu de rookies l'ont fait pour les trois premiers matchs et leur début en NBA. Donc c'est plutôt unanime. Oui, les débuts de Wembanyama sont satisfaisants.
Après, qu'en dit son coach Popovic, parce que c'est quand même le premier intéressé, c'est lui qui est peut-être le plus important dans ce début de carrière.
Alors Popovic, il y faut du temps. Il est content de ce qu'il a vu de Victor, notamment sa détermination dans les quatrièmes quart-temps. D'ailleurs, on va l'écouter, Pop, qui reste toujours assez rond et qui ne se mouille pas, mais il est content à la fois de l'attitude de Victor Wembanyama, humainement qui il est, et puis du joueur.
C'est un compétiteur. Bien sûr, il va être décisif et faire ce qu'il pense pouvoir faire pour gagner, mais ils sont tous comme ça. Les Houston Rockets aussi. Ils sont compétitifs, sinon ils ne seraient pas là où ils sont.
Bon, surtout en dire le moins possible.
C'est ça. Mais non, il est vraiment conquis. Et ce qui l'a rassuré, c'est à la fois d'avoir vu qu'il était très mature dans sa tête en pré-saison à l'entraînement et de se dire c'est pas forcément un gamin de 19 ans qui arrive de l'Europe, c'est pas forcément Tony Parker, sans qu'il ait dit que Tony Parker était immature, mais il le voit déjà prêt. Et quand il le voit prendre des responsabilités dans le quatrième quart-temps, il se dit vraiment qu'il est prêt pour la NBA.
Tu sais que Pop, hein, quand j'écoute Pop là, par rapport à sa carrière avec les journalistes, je pense que ça peut vite le gonfler, en fait, toutes ces conférences de presse et toutes ces questions autour de Victor Wembanyama. C'est un coach qui aime pas vraiment mettre en avant les individualités de son équipe. Et là, quand il arrive en conférence de presse et qu'il y a 50 journalistes français, que toutes les questions sont sur Victor, alors...
Mais c'est pour ça qu'il dit comme tout le monde, il a envie comme tout le monde.
Donné, il va pas falloir s'attendre un jour à une conférence de presse de Popovic avec des grandes phrases sur Victor Wembanyama et des punchlines. Je pense que ça n'arrivera jamais.
Après, on a vu un Wemby plutôt, à la manœuvre dans les moments importants, clutch, comme disent les Américains.
Oui, contre Dallas, où là, il est privé par les fautes, il revient dans le quatrième quart-temps, il permet aux Spurs de rester dans le match avec trois paniers consécutifs. Et surtout Houston, où il fait son action de double compte que vous avez entendu dans la production. Sur Jabari Smith, ça a levé, électrisé le Frostbank Center. On dit plus AT&T Center, ça a changé le naming. Et évidemment, son panier sur Jabari Smith également pour égaliser et arracher la prolongation. Et puis le premier de la prolongation sur Dylan Brooks. Donc c'est toutes ces actions décisives qui ont fait la bascule, parce que ce qui ressort, c'est comment Victor Wembanyama, à chaque fois qu'il rentre, eh bien le momentum change. Et d'ailleurs, lui, il s'est exprimé en conférence de presse. Il aime plutôt jouer, évidemment, comme n'importe quel basketteur, les moments chauds, les quatrièmes quart-temps.
Quand tu dis momentum ?
Momentum,
tu dis bibadum ou bibadum ?
Bibadum.
Mais parce qu'il a fait du latin au lycée. Alors, pas comme toi.
Non, le latin, c'était une option.
Victor Wembanyama sur les quatrièmes quart-temps.
Toute ma vie, j'ai préféré les fins de match parce que je me sens mieux, mais c'est aussi un axe d'amélioration de pouvoir apporter à l'équipe dès le début. Pour moi, il faut à tout prix pousser l'équipe vers le haut, quoi. Je peux pas me permettre de montrer un mauvais visage si je veux aider cette équipe à gagner.
Bon, c'est de toute façon plus important que des stats, hein, d'être clutch. Peut-être pas pour des débuts, parce qu'on sait que sa production va avoir aussi un impact sur sa carrière, mais c'est très important. Si tu veux faire une carrière...
Alors, évidemment, c'est hyper important d'être clutch, je suis d'accord, mais moi je trouve qu'il a un défaut qui était une vraie qualité que quand il jouait en Europe, c'est qu'il attend que le match vienne à lui. Uh-huh. Et ça, c'est pas la NBA. C'est pas uh-huh. ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent que tu sois performant d'entrée, que tu mettes des points, tu scores, tu montes des choses dès le début. Alors oui, c'est une machine à highlight, hein, ça c'est clair. Et en plus, il est clutch quand il le fait. Sauf qu'effectivement, il attend que le ballon vienne à lui. Je crois qu'il doit se responsabiliser encore plus. Alors c'est pas évident parce que concrètement il est attendu et c'est jamais évident de le faire, mais c'est vrai qu'il doit tenter de se responsabiliser plus et dès le début avoir cette envie de les tuer en fait.
Ça sera pas collectif, ça sera individuel.
Ça sera individuel après, parce que ouais, c'est la NBA ouais. en fait.
Après on l'a un petit peu vu contre Houston, je crois qu'il a pris 19 tirs oui, 10 ça. En première mi-temps, même s'il a pas été très adroit en première mi-temps. Les débuts sont corrects.
Correct sans
pas,
plus.
Non, on va pas être dithyrambique sur deux. Il y a pas. Moi j'attends un match qui fasse péter un énorme match. Pour l'instant, il y a trop d'intermittence sur ces rencontres. J'attends un match complet, qui soit présent
des deux côtés du terrain,
ouais. offensivement, la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Et puis, c'est pas parce que c'est Victor Wembanyama et qu'on attend bons et merveilles qu'il faut pas être capable de dire aussi qu'il est passé à côté d'un match. Et ça a été le cas à Los Angeles. Alors c'était la découverte de la NBA, premier match à l'extérieur.
Son équipe est complètement oui, à travers. Oui. Il y a pas un mec super solide.
Ils se font casser la bouche par une équipe qui est prétendante au titre NBA. Il s'est fait museler, Victor Wembanyama. Bébert Covington, Nico Batum, Kawhi Leonard sont des garçons sous-dimensionnés mais qui l'ont poussé, qui ont joué physique avec lui et il s'est fait museler. Il a été dans le dur.
Rappelle-toi ce qui s'est passé l'année dernière. Hein. C'est exactement comme
oui,
ça.
Avec Charles sur lui. Avec Yves Ponce et compagnie.
C'était
oui.
les petits costauds qui
John Brown, à Monaco.
Qui lui a fait beaucoup
voilà,
de mal.
Hein. Elle est là. Et Pop a dit il va falloir qu'il prenne l'habitude de ça, qu'il y aura des mecs qui sont sous-dimensionnés sur lui, qui vont le taper à la hanche, qui vont le mettre en déséquilibre à la hanche et au niveau des jambes. Voilà, c'est un axe de progression aussi. Mais là, il est en train de découvrir la NBA. Il est sur un road trip. Là, il va jouer deux fois Phoenix avec un garçon qui pourrait être son modèle, qui est Kevin Durant, un grand, fin, longiligne, même s'il y a des centimètres en plus pour Victor. Il va rentrer dans la vraie NBA. Les voyages, les hôtels, les jet lag, les matchs à l'extérieur, le peu de sommeil, le peu d'entraînement, pas de shooting le matin. Ça, c'est la vraie NBA. Donc, on va voir s'il est capable de s'adapter. Malgré tout, le bilan global, il est satisfaisant. Même si on voit que la rookie QV 2023-2024, il n'y a pas un mec qui fait tout péter. Brandon Miller, Hornet est correct, Chet Holmgren est correct.
Scott
Anderson, c'est caca culotte. Je crois qu'il a 1 sur 18 à 3 points sur les premiers matchs. Il est très mauvais. Donc il n'y a pas un rookie qui fait. Les frères Thompson ne sont pas non plus exceptionnels.
Non, mais preuve en est aussi que pour un rookie, c'est jamais facile d'arriver comme ça et de tout révolutionner. Exactement. Tout Victor Wembanyama qu'il a et tout la hype qui a pu l'entourer.
Et le point que dit Stephen sur le physique, ça reste quand même un point qui interroge aux États-Unis quand on dit sur Victor Wembanya, oui, le gamin est horriblement et incroyablement talentueux. Il peut faire énormément de choses, prendre ses tirs. Mais ce paramètre physique, il reste quand même une interrogation aux États-Unis. Comment il va encaisser la NBA? Comment il va pouvoir se développer? Et surtout, voilà, être dans le combat physique, parce que c'est forcément quelque chose qui lui fait
des. Après, je l'ai vu mettre des tirs au contact, à mettre un compte sur Shane Goon au contact, mais sur Jabari Smith, le panier pour égaliser à 11-11. Il y a un petit peu il y va au physique aussi. Après, il faut parler des Spurs. Bon.
Alors, voilà.
le jeu des Spurs.
Il n'est pas servi par le niveau de son équipe quand même. Hein.
Objectivement, on le savait. On le savait
à ce
forcément.
Point-là, à ce point-là, Fred.
Franchement, quelle est la vraie différence par rapport à l'année dernière pour les Spurs?
Wembanyama.
Sauf que autour, c'est quand même l'équipe qui était une des pires en défense, une des pires en attaque.
C'est Di Osman qui.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est un joueur un peu soft parfois, c'est Di Osman, même s'il est très talentueux, c'est un joueur un peu soft. Et on l'a vu justement contre les Clippers. Concrètement, il est tombé dans une équipe qui est en reconstruction avec de jeunes joueurs qui apprennent à faire des choses. Sohan qui passe meneur, Greg Popovich qui a une nouvelle lubie aussi. Alors même si Arnaud nous disait que c'était plutôt intéressant, oui, sauf que c'est quelqu'un qui découvre ce poste.
Ça organise rien, c'est pour ça que c'est le bordel.
Évidemment que ça organise
c'est le bordel dans le jeu des Spurs. J'ai l'impression que Pop est encore en train un petit peu de découvrir et même de découvrir Victor Wembanyama. Ouais, mais Trey Jones il sort du banc, mais il y a beaucoup de poulets sans tête, des gamins. On le voit dans le Money Time contre Dallas.
Devin Vassell.
Où Victor touche pas le ballon sur les deux dernières minutes alors qu'il est chaud bouillant et qu'il ramène l'équipe. Les mecs ils vont s'empêtrer dans des drives à 1 contre 3, 1 contre 4 et perdre des ballons.
Tout ça, c'est brouillon. Des joueurs majeurs entre guillemets de cette équipe contre les Clippers, ça résume exactement ce qui s'est passé. Ils s'en fait casser des bouches parce que c'était des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui n'ont pas rendu quand ça devient dur en face.
Et il n'y a pas encore vraiment de vraie hiérarchie en fait dans cette équipe-là. C'est Vassell, c'est Keldon Johnson, c'est Trey Jones, c'est Jeremy Sohan, c'est Victor Wembanyama. C'est un petit peu chacun leur tour. Donc je pense que ça va prendre du temps.
C'est pas le job de Pop, ça justement, d'instaurer cette
mais
hiérarchie.
Mais est-ce qu'il n'est pas en train de découvrir un peu son équipe en fait,
oui,
Pop, regardez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Parfois, Victor, il est oublié sur certaines séquences. Alors, est-ce que c'est lui qui s'oublie? Est-ce que c'est lui qui a un rôle hybride et qui se balade un peu partout sur le terrain? Je trouve qu'on n'est pas, pour un numéro 1 de la draft avec cette hype-là, il devrait aimanter tous les ballons, en fait, Victor Wembanyama. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, la saison est encore longue. Hein, là, il y a 3 matchs de jouer. Donc au fur et à mesure, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour Victor.
Non, bah alors voilà, ça c'est l'autre aspect. Parce qu'évidemment, on ne va pas non plus tirer des grandes conclusions après 3 matchs, puisqu'on est à peine au début. Mais les débuts, vous diriez que ça va durer combien de temps avant qu'il devienne un joueur un peu plus affirmé, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ça soit un peu plus fluide, qu'on connaisse un peu mieux les directions de jeu des Spurs, que lui, bah, comme tu le dis, Fred, n'attende pas que le match vienne à lui.
Bah, en fait, il apprend vite.
C'est quoi, c'est une demi-saison, ça, c'est une saison complète, c'est
je pense que tout le monde est d'accord déjà, qu'il apprend très très vite.
Oui.
À chaque fois, il apprend de ses erreurs et il est souvent en réaction d'ailleurs. Contre Dallas, il n'est pas très bon, contre Houston, il est bon.
Contre Dallas, il est chassé de la raquette, contre exactement. Houston, il est dans la raquette.
Il est dans la raquette, donc voilà, il arrive à s'adapter à ça. Donc je pense que ça peut aller vite pour lui, sauf qu'après, il faut quand même mettre en place toute une équipe, et Stephen l'a dit, c'est une équipe qui... On ne sait pas vraiment comment ils jouent, ils ont pas vraiment de hiérarchie.
Mais il y a des bons joueurs, il faut quand même
aussi. Oui, il y a des bons joueurs, sauf qu'il faut se trouver quand même à un moment. Il faut se trouver, il faut avoir un principe de jeu, et c'est vrai qu'on a du mal à le trouver pour l'instant.
Mais vous diriez que ça va durer combien de temps, ce moment qu'on estime être le début ? À quel moment on va avoir des attentes un peu plus élevées, quoi ? Décembre ? Dès décembre ?
Ouais. Ouais. Ah, ça fait 2 mois et demi de compète, tu prends le rythme de NBA.
Moi, j'étais moins objectif que toi. Moi, j'aurais pensé qu'il fallait la première année au moins pour,
ah oui.
pour que tout le monde...
Moi, j'allais dire même 2 ans, quand tu dis
ah
vraiment
ouais.
pour être...
Ah oui, d'accord.
Ça dépend ce que tu dis par attente et objectif.
Alors, le bilan, Victor.
Oui, mais si tu parles collectivement des Spurs, il faudra du temps, tu vas...
Ah oui, mais moi, je te parle de Victor, individuellement.
Ah, début de Victor. Ah bah
le temps de se faire la main, le temps de comprendre le principe de la NBA.
Le problème, c'est que si les Spurs sont vraiment mauvais, on va avoir du mal à juger en fait ses performances individuelles. Ça sera compliqué quand
mais
même.
Mais c'est là qu'il doit être encore meilleur. C'est là qu'il doit prendre encore plus le match à lui. Ouais, mais oui, c'est là qu'il doit s'affirmer comme le leader incontesté et incontestable de cette équipe.
C'est pas trop la culture ni des Spurs ni de Greg Popovich, ce que tu dis.
Non.
Parce qu'ils vont pas le cramer, ils vont pas lui faire jouer 36 ou 37 minutes pour qu'il gagne des matchs à lui tout seul. Je vois pas du tout le truc comme ça.
Mais Pop est obligé de le laisser sur le terrain pour l'apprentissage de la ligue
minutes,
aussi,
là,
Pierrot. Il faut qu'il passe des minutes sur le terrain parce que tu vois qu'il en manque de repères aussi, Victor, par les balles perdues. Il est quasiment à 5 balles perdues après 3 matchs.
Perdu, ouais.
Ça veut dire qu'il n'a pas encore tout à fait les repères, pas encore les bonnes connexions avec ses coéquipiers, pas habitué peut-être aux défenses qui sont proposées en NBA, peut-être à l'arbitrage aussi.
Il y a des balles perdues par lui, mais par ses coéquipiers pour tenter de le servir aussi, parce qu'il faut se trouver aussi. Quand tu es un joueur de ce gabarit-là, il faut trouver l'endroit où l'envoyer le ballon pour que ça soit une passe sûre.
Moi, je trouve au lancer, il est à 66% au lancer, je le trouve un petit peu plus fébrile sur la ligne des lancers aussi.
Le ballon, pas le même cuir.
C'est les ballons, ils sont trop gros. Il a joué 23 minutes, 31 minutes et 26 minutes, mais 31, il y a eu la prolongation contre Houston.
Oui,
donc,
oui. Et 23 minutes,
on est
il
parti
était pénalisé
sur 25
par les fautes.
Minutes, quoi.
Ouais, 23 minutes, il était pénalisé par les fautes. Moi, je pense qu'il va jouer 29 de moyenne.
Oui, je pense que ça sera à peu près sa moyenne.
À terme, peut-être pas.
Mais il est à 27, là. À l'instant T, il est à 27.
Oui, avec une prolongation, quand même.
Oui, d'accord.
Et avec un match pénalisé par les fautes.
Voilà, donc ça
équilibre. Et avec un blowout, 26 minutes avec un blowout contre les Clippers.
Bon, voilà pour les débuts. On va pas en faire trop sur les débuts de Wembanyama. Encore une fois, 3 matchs sur une saison de 82.
En tout cas, à chaque match, bon, pas bon, chiffre, très bien, pas. Il y a un truc, il y a une action que tu n'as jamais vue de ta vie, en fait. Moi, j'ai vu un alley-oop, axe, panier, récupéré d'un carrière.
Merci. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et quand je le dis, tout le monde dit, sans plus, incroyable. Non mais les gens
faire un alley-oop sur une passe panier dans l'axe, c'est très compliqué.
Non mais Stephen, tu
se resituer face au cercle.
Ne pas se connaître contre le cercle.
Mettre un Thomas arrière.
Non mais pour un mec de ce gabarit là, c'est juste incroyable.
Ah oui, quand même.
Non, c'est vrai.
Quand même. Et puis il a aspiré l'âme de Jabari Parker quand même sur plusieurs actions.
Ce qui est toujours intéressant.
C'est intéressant, oui.
C'est Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi. C'est un spécial début de saison de la NBA et le début de saison est marqué par ce gros transfert de Harden vers les Clippers. Harden trying to get free. Down to three, down to two. It's a three.
Good! Good! He got it! The 76ers have traded James Harden to the LA Clippers.
Oh! You can drop the sledgehammer anytime you want!
Along with PJ Tucker and Filip Petrušev.
In another potentially hairy situation, Harden goes long. Green ball fake, layup is good, and a foul with 5.5.
In return for Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks, and a pick swap.
Oh my! Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden.
Alors James Harden donc rejoint les Clippers.
Moi le truc que j'ai préféré là sur l'extrait c'est Philip Petrushev.
Et c'est définitivement Nick Batum. Hein. Il l'appelle jamais Nicolas. Hein.
Ouais, c'est ça.
Alors Nick Batum lui va à Philadelphie. On va en parler aussi. Le récap de ce transfert qui est quand même une grosse information aux États-Unis et bien sûr pour la NBA. James Harden avec PJ Tucker, Philip Petrushev file à Los Angeles en échange de Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. et des tours de draft vers Philadelphie. Alors évidemment, j'ai posé la question, est-ce que Harden y arrivera un jour ? On a l'impression que ce joueur qui est si talentueux, bah finalement, n'a jamais réussi à vraiment s'intégrer à un projet intéressant et capable d'être champion NBA. Est-ce que c'est l'impression que ça vous donne aussi lorsqu'il rejoint les Clippers, messieurs ?
Moi, pas vraiment.
Non.
Moi, pas vraiment.
Ça peut marcher ?
Alors je sais pas si ça peut marcher, hein, parce qu'il est vieillissant, c'est pas facile d'intégrer un joueur comme
34
lui.
Ans.
Ils ont déjà Russell Westbrook qui aime le ballon, alors je sais pas si ça peut marcher. Mais quand tu réfléchis à James Harden, quand il part à Houston, bah, franchement, il a deux doigts de réussir. Ça joue à pas grand-chose. Ensuite, il part au Nets et tout le monde est unanime après coup pour dire que l'organisation elle est catastrophique là-bas.
Il y a eu des blessures.
Et ça joue à un pied de KD. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Et finalement, bah, la seule année où ça aurait pu fonctionner, mais tu avais quand même un petit peu moins bien, c'était aux Sixers. Sinon, dans l'ensemble, tu as l'impression qu'il quand même, il fait progresser les équipes où il va.
Mais alors là, est-ce que ce transfert c'est un bon coup pour les Clippers ?
En fait,
vu ce qu'il donne.
En fait, moi, ce transfert-là, encore une fois, ça, on a cédé aux caprices d'enfant gâté de James Harden. Mais est-ce qu'il y a des gens, il y a des gens très compétents hein, quand même dans les franchises NBA. Est-ce qu'il n'y a pas un mec dans les bureaux des Clippers qui à un moment donné a levé la main à la réunion pour dire attendez, est-ce que Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard, c'est une bonne idée en termes d'alchimie d'équipe et de partage du ballon? Il y a un mec qui a réfléchi à ça en fait.
C'est ça que je me demande, Steve.
À ce qui se passe sur le terrain.
Pour qu'il y ait encore une franchise comme ça qui le prenne, c'est qu'ils doivent y croire.
Une franchise, comme il l'a dit, avec des joueurs à ce point qui ont besoin du ballon. Et je parlais de Russell Westbrook, mais il n'y a pas que ça. La chimie, elle va être super difficile à trouver avec Harden, c'est sûr.
Sauf que dans le modèle ricain, aujourd'hui, il ne semble pas concevable de ne pas faire jouer les quatre ensemble souvent. Moi, je me dis, si par exemple, tu revois totalement tes rotations que tu fais sortir du banc...
Ça n'existe pas, ça.
Mais voilà, je sais.
Arnaud,
c'est pour ça que je dis ça en préambule. Tu te dis que potentiellement, avoir un moment une équipe où c'est Kawhi, Harden, tes deux joueurs principaux, en unité 2, tu fais rentrer Westbrook et Paul George, tu peux être dingue sur 48 minutes. Mais je sais...
Est-ce qu'il y a un mec qui existe, Clippers, qui va convoquer Polo George, qui a 30 points de moyenne sur les 3 points, et dire, Polo, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas sortir du banc, gros, t'en dis quoi?
Non mais
je voudrais être à la réunion, moi.
Mais je sais que c'est totalement inconcevable.
Non, mais le 5
majeur, on connaît.
On connaît, le 5 majeur. Moi, je ne sais pas comment ça va
fonctionner. Avec Zubac en 5, mais...
Je ne sais pas comment ça va
fonctionner. C'est pour ça, hormis changer totalement ce logiciel, et ça n'arrivera pas, je me dis que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau.
Parce que les Clippers, mine de rien... Ils perdent pas énormément. Bébert Covington était là sans être là. Nico Batum avait un rôle important de glue guy qui est le bon camarade dans le coin qui fait les basses besognes.
Mais finalement,
ils ont encore du monde parce qu'ils ne voulaient pas se séparer Terrence Mann. Il est encore là. Norman Powell est toujours là. Bones Island est toujours là.
Ils ont
deux big men très corrects. Quant à Zubac et Plumlee en backup, c'est très bien. Finalement, les Clippers, l'équipe, elle est cohérente. Mais moi, je veux savoir, Tyronn Lue, explique-moi, mon grand, comment tu vas jouer au basket. Il n'y a pas un mec sur les quatre qui n'a pas besoin du ballon pour exister. Donc explique-moi, Russell Westbrook a mis un petit peu d'eau dans son vin parce qu'il prend que 8 tirs par match. mais le problème, c'est qu'il a besoin quand même du ballon pour faire quelque chose, pour créer. Roger Sarden, je ne vais pas vous faire le topo de James Harden.
Qui va être le meneur? Qui va avoir le ballon dans les mains au début de possession déjà?
Je ne sais pas, surtout que le début de saison était correct des Clippers.
Et à quel moment Kawhi Leonard va leur tirer les oreilles parce que ça va l'insupporter?
Mais Kawhi est en bonne santé, Paul George est en bonne santé, les mecs jouent des minutes, Bones Island est très bon. Le début de saison était très correct des Clippers. Ils ont voulu, alors est-ce qu'il y a la nouvelle salle qui arrive l'année prochaine et que Steve Ballmer, qui est un peu un propriétaire foufou, on le voit au bord du terrain, il n'en peut plus, il lève les bras, il est tout content. Est-ce qu'il avait envie de vendre des tickets et de remplir la salle l'année prochaine? T'as 4 mecs qui ont 32, 33, 34, 35 ans. Je sais pas, c'est un mystère.
Est-ce qu'ils peuvent faire des sacrifices parce qu'il leur manque tous une bague? Enfin, sauf Kawhi.
Je dis, oui, il l'a la bagouze. Il faut faire des sacrifices. Mais après, qui va faire des sacrifices
déjà, Harden, il a montré qu'il était capable de faire certains sacrifices. Par exemple, quand il est arrivé au Nets sa première année.
Sur trois mois.
Plutôt,
oui. et après, il redevient
Après, c'est tous des gamins de LA. C'est ça qui est intéressant. C'est tous des gamins du sud de Californie.
Compton, des trucs. Mais bon.
UCLA pour Ross
West. Vous me dites, le 5 majeur, on le connaît, mais qui va aller sur le banc entre Westbrook, Paul George et
justement.
Paul George va décaler, c'est ça?
Non, Kawhi, il va jouer 4.
Ça va être Westbrook, Harden en 2, Paul George en 3, voilà, Kawhi en 4 et Zubac en 4.
Ok, en 5.
En 5, oui.
D'accord.
Zubac en 5. Mais,
franchement, sur le papier, franchement, c'est complètement fou par contre.
C'est complètement fou.
L'équipe est incroyable, mais elle a peut-être 4 ans de retard en fait, cette équipe-là. Mm-hmm. Tu vois, il y a 4 ans, peut-être que c'était. Après, c'est 4 futurs Hall of Famer dans la même équipe. C'est rare. Hein.
Ouais, c'est rare.
C'est très rare. Ah, maintenant,
Jamais ça fonctionne, ils peuvent tout détruire ou si vous n'y croyez pas une seconde.
Je sais pas, c'est pas ma conception du basket en fait. Je veux voir, moi. Je suis comme Saint-Thomas, j'ai envie de montrer moi.
Après, ce qui est intéressant quand même dans cette équipe, c'est qu'il reste des two-way players.
Oui,
ça défend quand même. Ça peut quand même très très bien défendre aussi. Donc, je sais pas, j'ai vraiment du mal à savoir.
Ils ont récupéré PJ Tucker qui va peut-être faire du Nicolas Batum, c'est-à-dire rester dans le corner, défendre, faire les basses besognes, faire des
jeux. Si c'est un mec dur en face, tu peux sortir de ton banc et aller le faire le tuer.
Là où je veux rejoindre Steven, c'est que je pense que ça va être incoachable aussi. C'est, par exemple, tu veux faire un choix tactique, rentrer PJ Tucker, sortir soit Kawhi ou Paul George.
Non, mais le seul truc, peut-être ce qui peut les sauver, c'est que Kawhi restera le patron. De toute façon, le numéro 1 dans toute cette clique là de Hall of Famer, c'est lui, non? De toute façon.
Oui, bien sûr.
C'est peut-être ça qui peut créer une sorte de hiérarchie.
Ouais, mais le numéro 2, c'est qui?
Peu importe à la limite, non. C'est moins important, non, un numéro 2, non?
Je pense pas. Pour moi, c'est important.
Pour moi, c'est les deux anciens de LA.
Mais c'est Kawhi et Paul George. Pour moi aussi. Sauf que, comme tu le disais, est-ce que Harden sera capable, sur une saison entière, parce que c'est le début de la saison, de justement se mettre au diapason et de se mettre au service du collectif? Avec en plus Westbrook qui n'a pas le ballon. Hein. Qui va monter le ballon? Qui va avoir le ballon le plus en main? Parce que Harden est très bon sur les pick and roll, sur les passes. C'était le meilleur passeur l'année dernière, quand même. Donc. Et tu te poses la question quand
surtout
même.
C'est des spécialistes avec 24 secondes sur une possession, quand il a généralement le ballon Harden ou Westbrook, il ne reste plus que 7 ou 8 secondes hein.
Oui. Moi je me dis par contre Zubac va être à 15 rebonds de moyenne hein. je vous préviens tout de suite qu'il va pas être le meilleur. Par contre un mec a foiré et qui est en échec sur ce trade là, c'est Daryl Morey des Sixers, parce que lui il a cédé aux caprices, mais en contrepartie il voulait un énorme joueur, un all-star et des tours de draft. Au final il se retrouve avec 3 joueurs plutôt vieillissants sur la fin,
Bender, Covington,
Maurice et Nico.
La seule plus-value, c'est qu'il s'est débarrassé du contrat.
Il a récupéré les tours de draft. Alors, est-ce que Daryl Morey, c'est juste un premier tour de passe-passe pour ensuite refaire un autre trade avec les joueurs et les tours de draft qu'il a récupérés? Parce que là, Joel Embiid, il va le regarder, il va dire, attends, tonton...
Il y a la rumeur Embiid Onyx.
C'était quoi son choix? Oui, mais c'était quoi son choix, Daryl Morey? Personne ne voulait James Harden, ok? Lui, il ne voulait plus jouer pour les Sixers. C'est quoi ton choix? À un moment, tu peux aller au bras de fer, mais tu payes 50 millions ou 40 millions, je sais pas combien.
Oui, mais tu peux demander des jeunes joueurs. Tu peux exiger Terrence Mann, je le veux.
Oui, et bien si l'équipe leur dit non, tu gardes toute l'année James Harden sur le banc.
C'est peut-être ça la raison du trade. C'est que les Clippers ont peut-être été très forts dans les négos en disant de toute façon, nous, on n'en veut pas spécialement.
Regardez, on gagne.
Donc on ne va pas se séparer des joueurs dont vous voulez et qu'on ne veut pas perdre. Donc si vous voulez qu'on vous prenne James Harden, c'est James Harden contre rien. C'est peut-être pour ça finalement qu'ils font ce trade.
Mais c'était trop simple pour les Clippers. Ils étaient tellement en position de force. Soit on continue comme ça, ça nous va très bien, on continue. Soit on prend Harden, mais on vous donne rien. Mais qu'est-ce que tu fais?
Ouais, mais Daryl Morey a la pression, parce que Joel Embiid, il arrive, il va avoir 30 ans, il va lui dire tonton.
Ça reste correct, les Sixers ou pas?
Ça a rien à voir avec les Bucks et Boston. Ils se sont pas renforcés, hein, pour moi, Philly. Tyrese Maxey a montré que ça peut être une deuxième option fantastique, parce qu'il fait une saison.
Nick Batum.
Oui, mais Nico, est-ce qu'il va rester, Nico? Alors sur le poste 4,
qui rejoint Joel Embiid quand même.
Qui rejoint Joel Embiid, mais
c'est génial.
Voilà qui joue ensemble, on l'avait dit.
Ils vont parler de quoi entre les entraînements?
Ils vont parler français en tout cas, c'est bien. Mais Bébert Covington et Nico Batum sont les deux postes 4 de cette équipe-là, donc peut-être qu'il va jouer. Peut-être
il va lui dire tu vas voir Vinov Dask, c'est pas si nul.
Peut-être qu'il va se faire
régaler.
Peut-être que Nico va se faire retrader. Peut-être qu'il va avoir un buyout, coupé pour aller ailleurs. Mais cette équipe-là, elle est pas plus forte en fait. Et Joel Embiid, il arrive à son prime. Et Joel Embiid, il va avoir des exigences où Joel Embiid va partir. Le prochain blockbuster trade, c'est peut-être Joel Embiid.
Et on parle un petit peu des Knicks.
Ça serait beau. Après les Knicks, attention, autre franchise de casse-tête.
Ah ouais, ah ouais, panier de crabe, tonton.
Non, mais après, s'il va aux Knicks, ils devront se séparer d'un des gros joueurs, non ?
Bah oui, Julius Randle. Je
pense que c'est un des premiers à partir, ouais, ça c'est clair.
Je sais pas quoi, mais écoute, je sais pas.
Après, Brunson, Embiid, moi je vous demande à voir.
Ouais, c'est pas mal. Mais on a une petite pensée pour Nico quand même, parce que c'est censé être sa dernière saison NBA.
C'est un coup dur pour Nico ou pas forcément ?
C'est un coup dur déjà
de vie.
De vie, c'est sa dernière saison NBA à LA. On n'oublie pas que tout ce qui. Enfin, il est redevable.
Est-ce que tu es sûr que c'est sa dernière saison avec ce trade-là ?
Je sais pas.
Je pense qu'il aurait aimé faire sa dernière saison.
En tout cas, c'est sa dernière année de contrat.
Tranquille,
sa dernière année de contrat, en tout cas.
Oui, mais
peut-être retourner à Charlotte, je sais pas.
Mais. Je sais pas. Après, il n'y a plus James Borrego. Mais Nico, il se voyait terminer à LA. Dans un rôle qu'il connaît à merveille, dans une équipe qui joue bien au basket. Avec un coach qui l'a relancé. Surtout, les Clippers ont redonné goût au basket à Nico Batum. Donc, il y avait une vie histoire entre les deux.
Toi qui as une relation avec Nico, tu sais si.
Après, la rumeur Harden, elle est là. Et tu savais que les Clippers allaient se débarrasser des mecs qui sont en fin de contrat. Donc, Nico faisait partie des mecs qui étaient en fin de contrat. Donc
en parlant de fin de contrat, justement. Les mecs qui arrivent, c'est tous
ces
mecs qui sont
en fin de contrat. Donc, il y a du salarié cap pour 2024.
Après, Nico est assez intelligent et suffisamment bon basketteur pour être un élément important de Philadelphie s'il y reste.
Oui, voir ce que veut faire Nick Nurse aussi, voir ce que veut faire Daryl Morey s'il n'y a pas d'autres trades en cours pour justement.
Oui, parce que là, ils sont plus très, très étoffés quand même.
Ils ont Kelly Oubre Jr., Tobias Harris, Melton, Patrick Beverley, Paul Reed, Bebert Covington, Nico Batum, Joel Embiid, Tyrese Maxey.
Concrètement, c'est pas dégueu.
C'est pas dégueu, mais c'est loin
des années-lumière.
Et c'est loin de Boston, et c'est même loin des Cavs, en fait, tout ça, donc dans cette conférence Est. Donc,
loin des Knicks, même.
Oui, loin des Knicks, mais je suis pas sûr que ça reste en l'état, en fait, hein, pour Philly. Voilà, mais écoute, on verra. Les Clippers, pour moi, c'est un mystère.
Un coup dur pour Batum, pour toi, Fred ?
Oui, ben forcément. Forcément, je pense que lui, il voyait bien terminer justement sa carrière là-bas, tranquillement. Ouais, c'est un coup dur. Après, certaines personnes sur Twitter, toujours bien intentionnées, ont dit pour un pauvre millionnaire qui va devoir déménager. Et je comprends cette façon de penser.
Tout est relatif.
Mais tout est relatif. C'est pas parce que t'es millionnaire que t'as pas le droit d'être heureux.
On est d'accord que c'est pas un drame.
C'est pas un drame en soi.
C'est les règles du jeu.
Mais c'est relou. Oui, mais pour cette dernière année, c'est pas ça.
C'est comme si toi, ce matin, à 8h, tu reçois un message. Pierrot, t'es tradé.
À Sedan.
Non, pas Sedan, mais à radio, je sais pas, à Antibes. T'as ta femme qui est là, t'as tes enfants qui sont à l'école, tu vois, c'est relou.
C'est relou.
Antibes, je sais pas si c'est un bon choix. Philadelphie, Antibes,
oui,
je suis pas sûr que.
C'est le chemin inverse.
Comme le dit Arnaud, c'est le jeu, ils le savent.
Oui,
bien sûr. À tout moment.
Mais pour expliquer aux gens que. Il est pas malheureux, Nico Batum. Mais ça bouleverse une vie aussi.
Mais c'est peut-être surtout sportivement que c'est triste parce qu'il avait un vrai rôle aux Clippers et là on sait pas du tout ce que ça va donner.
Là tu pars dans l'inconnu.
On sait même pas s'il va jouer pour les Sixers.
Oui. Hein. Voilà, on sait même pas.
C'est Basket Time, c'est votre rendez-vous basket du mardi que vous téléchargez consciencieusement.
Il est dur à dire ce mot.
Pourquoi j'ai dit ce mot
Vous téléchargez intelligemment.
Consciencieusement. Le mardi avec assiduité sur rmc.fr et on continue sur James Harden.
With the third pick in the 2009 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University.
Rebounds up, Smart will defend, Harden has the ball, shot clock at 7, read the screen, triple away and good. He's on fire to start. Harden has started 5 of 5.
Harden got a nice pass. What a great pass to Greg Smith.
What a move by Harden. And he drops the sledgehammer. What a play. The move, the drive, and dropping the anvil.
La carrière de James Harden, c'est quelque chose quand même. Elle n'est pas finie. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer aux Clippers, et peut-être même encore après. Partout où il est passé, il a quand même laissé une trace assez importante de joueurs, soit d'espoir de l'NBA, soit de joueurs confirmés.
Il a laissé des tips aussi dans les strip clubs. Hein.
Et puis surtout, des espoirs déçus bien souvent. Quel James Harden avez-vous préféré ? Il y a eu Oklahoma City, il y a eu Houston, il y a eu les Nets à Brooklyn, Philadelphie et maintenant les Clippers. Quel James Harden as-tu préféré, Fred ?
Alors, je n'ai pas trahir de secret, j'ai Arnaud Valadon qui avait choisi le James Harden le plus intéressant. Donc je le laisserai parler de ça. Ensuite, tu ne peux pas choisir, par définition, je ne peux pas choisir Houston. Parce que c'est exactement l'anti-basket que j'aime. Et donc, ce n'est pas possible. Mais par contre, force est de constater que moi, je l'ai plutôt bien aimé quand il est arrivé au Nets.
Alors effectivement,
il sort éclair.
Je parle surtout de sa première partie de janvier 2021 au play-off 2021 où il se blesse aux ischios. Je l'ai trouvé très bon et surtout, je l'ai trouvé intelligent. C'est-à-dire qu'il s'était, je trouve qu'il s'est adapté, il s'est mis dans les bonnes conditions. Il était quand même à presque 25 points, 8,5 rebonds, presque 11 passes.
C'est monstrueux.
Des statistiques incroyables. Alors, offensivement, celui qui critique James Harden, c'est qu'il ne comprend pas le basket parce qu'il a un talent fou. On peut aimer ou ne pas aimer James Harden, mais on peut que constater son talent fou. Mais vu comment c'était sale son départ de Houston, déjà que je ne l'aimais pas beaucoup, je le détestais. Concrètement, je me suis dit, il n'y a plus rien à attendre de ce garçon. C'est un débile profond, il ne comprend rien du tout. Et finalement, quand il arrive au net, eh ben j'ai mon amour pour lui qui a beaucoup grandi. Ouais. Parce que je me suis dit qu'il était capable, sur son début.
Il n'a pas grandi non plus.
Donc. Si, il partait vraiment très très loin.
Tu l'as respecté.
Tu l'as pas envoyé un DM sur Instagram non plus pour lui dire « I love your game ».
Il a peut-être tenté. Hein.
Non, mais concrètement, ça partait tellement loin que oui, ça a beaucoup grandi.
On va dire qu'il a gagné ton respect.
Il a gagné mon respect parce que je me suis dit que ce garçon était capable de s'adapter, de faire des choses pour l'équipe, de se fondre dans, se fondre dans un collectif. Et c'est la période que j'ai le plus aimé parce que voilà, je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé très juste et je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent que d'habitude. Donc voilà, c'est la période que j'ai le plus aimé, mis à part la période qu'Arnaud m'a volée.
Alors Arnaud, quelle est sa période la plus intéressante, selon toi?
À la fac, non?
Alors, celle que j'ai préférée, la première question c'était préférée, parce que le meilleur, oui. Je pense qu'à Houston, il avait atteint, il finit avec un titre de MVP, mais OKC, ces trois premières années OKC, parce que il est avec Russell Westbrook, il est avec Kevin Durant, ils font une finale NBA contre le Miami Heat. D'ailleurs, ils prennent le premier match de cette série. Finalement, ils vont perdre 4-1 et ce sera le premier titre de LeBron James avec D-Wade et Chris Bosh. Parce qu'ils sortaient du banc, tout simplement, James Harden. Il n'était pas titulaire, c'était la première arme offensive du banc, même s'il a fini sa troisième et dernière saison avec OKC à 30 minutes de jeu, mais c'était 16 points, 3 passes et 4 rebonds. C'était des bons pourcentages. Il shoot à presque 50% cette année-là. Moi, c'est son utilisation, toute la hype qu'il y avait à OKC, et on ne peut que regretter de voir ce trio être démantelé à partir de 2012, parce que la franchise avait fait le choix notamment de prolonger Serge Ibaka en lui donnant les millions, et on voulait pas trop investir du côté du propriétaire sur des énormes contrats et payer la luxury tax. Et on a dit à James Harden, bah écoute, nous on va pas te prolonger, tu vas arriver dans ta quatrième année de contrat rookie, et ben on t'envoie à Houston. C'est un petit peu mon regret. Alors oui, sur le moment, prolonger Ibaka se valait peut-être mieux que James Harden, sachant que tu avais déjà Russell Westbrook et Kevin Durant.
C'était pas idiot en tout cas.
C'était pas idiot, sachant qu'il y aura un run avec une finale de conférence Ouest contre Golden State absolument incroyable en 2016. Et voilà, ce James Harden de OKC, moi j'en ai encore un peu des frissons, parce que c'était aussi la complémentarité de ce trio avec Russell Westbrook, avec Kevin Durant qui me plaisait énormément. T'as bossé Folocha, l'ancien joueur de l'Élan Chalon qui était là aussi en super défenseur.
Donc OKC pour Arnaud, les Nets pour Fred et pour Stephen Brun.
Bon, écoute, ma première réponse a été aucun.
Aucun.
Non,
aucun. Ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. James Harden fini.
Mais après, je me suis dit, bon, vas-y, ça cache pas le basket time quand même. Donc, je vais te dire le Harden de ces deux dernières saisons à Philly, en fait, parce qu'il était deuxième ou troisième option et qu'il était redevenu un petit peu plus, comme Fred l'a dit aussi à Brooklyn, un plus meneur de jeu qui jouait beaucoup pour jouer à l'Embiid et que le pick and roll Harden-Embiid a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts en NBA, qu'il était plus passeur que tireur, il prenait que 14 tirs par match, il était à 38% à 3 points la saison dernière, il était plutôt sobre et efficace, voilà pourquoi j'ai aimé Houston. C'est peut-être l'apogée de sa carrière, Houston, mais il m'a fait vomir mes petits déjeuners, en fait, quand je regardais les matchs de Houston le lendemain matin, parce que c'était...
Ouais, mais tu sais très bien que c'était pas forcément de sa faute.
Oui,
c'est le jeu prôné à cette époque-là, Houston.
Rappelle-toi que Daryl Morey vire Clint Capela pour les big men, il jouait avec Bébert Covington au pivot, qui fait 2 mètres, et c'était tout pour le tir à 3 points. Et James Harden, il a dit, ouais, super Daryl, tu m'as régalé. Le mec shootait 35 fois, 40 fois par match, c'était honteux. Il se faisait même des remises en jeu à lui-même, gros, panier encaissé, il prenait, hop, il avait la balle. Il monopolisait le ballon 24 secondes sur 24. Il m'a dégoûté, en fait. Il a fait des saisons à 36 points de moyenne. J'enlève pas le talent, talent offensif exceptionnel, talent de la passe exceptionnel aussi. Il a même fait briller Clint Capela, toutes les passes lobées. J'ai jamais compris pourquoi ils ont dégagé Clint Capela. La phobie de Daryl Morey sur le tir à 3 points a flingué la NBA aussi, parce qu'il a voulu dire allez Warriors, ils gagnent par tir à 3 points, on va faire pareil. Mais j'ai détesté James Harden en fait à Houston. Il est MVP à Houston, mais j'ai détesté. Donc à Philly, il m'a plu, meneur de jeu, passeur, moins Pac-Man, moins Glouton. Voilà, s'il fallait en choisir un. Voilà.
Mais finalement, dans ce que vous dites, est-ce que son évolution peut pas aboutir à quelque chose de très bien aux Clippers, puisque Houston, il vous faisait vomir. Les Nets, c'est beaucoup mieux. À Philadelphie, c'est peut-être
raison,
là où il est le plus collectif, entre guillemets, en tout cas, qui s'insère le mieux dans une équipe. Est-ce que sa progression, son évolution peut pas continuer aux Clippers finalement ?
Moi, je m'inquiète par rapport à ça, parce qu'effectivement, aux Sixers, il est meilleur, sauf que si tu regardes vraiment, surtout sur les playoffs, il est très up and down. C'est-à-dire qu'il va sortir un match exceptionnel, et le lendemain, il va être beaucoup, enfin le lendemain ou sur le lendemain d'ailleurs, il va être beaucoup moins bon. Et c'est peut-être ça qui fait que il a son âge, malheureusement, il n'a pas l'hygiène de vie la plus importante des joueurs de la NBA, donc pour moi ça va être difficile quand même pour lui de continuer à avoir cet impact.
À Houston, il provoquait un paquet de fautes, il allait finir sur les grands, il avait du
jus, les bras, il jetait dans les bras.
Et là il a plus ça, et à Philly, mine de rien, il joue avec Joel Embiid qui est un big man et qui est un fantastique joueur offensif. Là Clippers, Zubac, je l'aime bien, mais je suis pas sûr qu'il joue 25 ou 30 pick and roll par match avec Zubac en fait. James Harden, donc
et puis voir
un peu.
Oui.
Hâte de voir la défense de James Harden, parce que c'est quand même sa grande en filigrane dans toute sa carrière, c'est ses actions défensives nullissimes. James Harden,
il a quelques oublis parfois.
C'est donc un Basket Time spécial début de saison et on va finir comme chaque mardi par le quiz. J'avais préparé pour 3, donc on va s'adapter parce qu'il y a des...
Parce que quand il y en a 3 pour 3, il y en a pour 2.
Bah écoute, oui, je compte, attends, c'est bon.
Hein?
Non mais c'est plus qu'intéressant, c'est exceptionnel. T'étais là, hop, t'avais pas envie d'y aller, t'avais l'impression que Steve te dominait et hop, dès que t'as un bon ballon, hop, tu dunk et c'est bon. Je suis en vrai sadique parce que c'est très dur.
85.
On continue sur Vezenkov.
Oui.
Bon, alors malheureusement pour toi, la question ne porte pas sur Vezenkov.
On continue donc avec Vezenkov, mais c'est pas sur Vezenkov. Okay.
Tant pis, il y aura pas de logique dans ce quiz. On repasse à Steve, Team Duncan. Bon, hop, on arrête. Bon, si t'échoues, Fred pourra répondre pour essayer de gagner le quiz.
Je suis toujours chou, moi.
Il n'y a pas de thème dans ce quiz, ce sera une boucle qui partira de James Harden et qui reviendra à James Harden. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui !
Tous les trois !
Le quiz le plus mal vendu de l'histoire. Il n'y a pas de thème dans le quiz.
Non, cette semaine, il n'y a pas de thème. Parfois, il y a des thèmes. Parfois, c'est un peu compliqué. Et alors là, on démarre avec James Harden.
Non.
Donc,
t'as bien cette blague ?
Non, je ne m'attarde pas dessus.
Très bien.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien.
Ouais,
hein,
c'est
juste qu'on avance. Alors, première question. Vous avez deviné un joueur qui a joué avec James Harden dans deux franchises différentes.
Oui,
il n'y en a pas tant que ça. Un joueur qui a joué avec James Harden dans deux franchises différentes et qui a joué en pro.
Ah oui,
c'est Folochat ?
Bah oui, c'est Folochat. T'en as parlé il y a 2 minutes. Bravo, Tabo. C'est Folochat, le Suisse. Le meneur suisse. Deux franchises différentes. Oui, absolument.
Houston et OKC.
Arrière, ailier plutôt. Meneur suisse, non ?
Il n'est pas meneur ? Ouais, il n'était pas meneur ?
Arrière,
alors, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il était meneur. C'est Folochat.
Pas grave,
c'est pas grave. C'est dommage quand même.
Dommage.
Ça aurait été mieux de le savoir. Mais c'est pas grave, non ? Ensuite, quel autre joueur que c'est Folochat a joué à Chalon et à Oklahoma City.
Aslem, Udonis Aslem ?
Non,
il a joué à Miami.
Chalon et Oklahoma City.
Mais c'est Chalon.
Hein ?
Quel autre joueur ?
Booker.
Que...
Malcolm
de l'année. J'ai la balle.
Booker.
Malcolm de l'année.
Vous allez chercher trop loin.
Comment ça trop loin ? À Chalon.
Il a joué à Chalon.
Et à OKC.
Ouais.
Clint Capela ?
L'Auvergne ? Non.
Geoffrey L'Auvergne. Bravo Arnaud. Excellent Arnaud, tu mènes 2-0. Quel autre joueur que Folochat a joué à Chalon et à Houston ?
Ah ben là, je viens de
Capela,
le dire.
Clint Capela.
Ah oui, mais alors est-ce que je t'accorde le point ? Parce que tu dis là, je viens de le dire. Et pendant ce temps-là, Steve a dit Clint Capela.
Oui, mais comme je viens de le dire.
Allez, je t'accorde le point. Steve est trop vénère.
Très bien, moi aussi. Par contre, si j'ai dit un nom dans toute l'émission et que c'est la réponse,
pas dirais, l'émission.
Je t'ai dit tout à l'heure.
Allez, pour l'intention, je donne à Fred. Ça fait 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred. Et aussi parce que... Généralement, tu domines ce quiz, donc là, on va te donner un petit handicap.
Là, je suis 2-1-0, par contre.
2-1-0, exactement. Alors, on est sur Clint Capela. Lorsqu'il arrive à Houston en 2015, Clint Capela, qui est le pivot titulaire des Rockets ?
Tyson Chandler.
À qui va prendre la place ? En tout cas, à qui va succéder ?
Motiejunas.
Non.
Chandler. Dwight Howard.
Dwight Howard.
Oui,
bravo,
oui.
Bravo, Steve.
Ouais, je ne me rappelais même plus qu'il allait jouer à Houston.
Ouais, Dwight Chandler,
c'est pourquoi il est venu à Houston ? Caprice de James Harden, qui a fait venir Dwight Howard.
Ah, ok.
Oui.
Alors, sur Dwight Howard, tu as une question sur Dwight Howard. Avec quel joueur français Dwight Howard a perdu une finale NBA ? C'est Mike Pietrus. Bravo Arnaud, tu reprends 2 points d'avance. Donc 3 points pour Arnaud, 1 point pour Fred, 1 point pour Steve. Mike Pietrus, vous allez l'écouter. Et vous allez me dire de qui il parle, Mike Pietrus.
C'est épuisant, mais mentalement, on a envie d'arrêter le basket. Tellement que c'est dur. On était tellement fort à l'intérieur et à l'extérieur.
C'est pas Pat Riley.
Mais les gens, ils savaient pas qu'on s'était entraîné 2 heures avant le match. On s'était entraîné 2 heures avant le match. Tellement que c'était dur. Et donc, on avait ce coach qui avait cette capacité à dès que l'équipe adverse annonçait le système, lui, il savait qui c'est qui allait shooter. Et donc nous, défensivement, on jouait dur, mais c'était un peu plus facile pour nous de tricher parce qu'on savait qui c'est qui allait prendre le shoot.
Il parle d'un coach, mais de quel coach ?
Mais on avait sur 10 jours de travail,
à Orlando,
on avait 2 jours de repos.
Jeff Van Gundy ?
Là-bas, tu t'es le plus
entraîné. Stan Van Gundy.
Stan Van Gundy.
C'est faux.
T'as dit Steph, c'est ça ?
Non, j'ai dit Jeff.
Jeff, non, Stan Van Gundy.
Point pour personne.
Oh non, je suis d'accord.
Allez,
il y en a 2 qui ont été coach. Non, je suis d'accord avec Stephen.
Le verdict, point pour personne.
Oh, l'arnaque.
J'aurais dit Van Gundy, c'était bon.
J'aurais pu tuer le quiz, Arnaud. Aïe, aïe, aïe.
Prochain quiz, je vais dire Johnson. Ça va passer aussi.
Alors, Stan, on parle bien de Stan Van Gundy.
Wawrinka.
Quelle est sa dernière franchise entraînée ?
Détroit. Non. Détroit.
Non.
Stan Van Gundy a entraîné.
Dernière Houston.
C'était en 2020-2021.
Avec franchise Qatar.
Indiana. Pelicans.
Les Pelicans. Ouh, il est chaud, Arnaud.
Ça lui a fait du bien de partir au State. Ouais.
Après, quand tu dis 22 franchises.
J'utilise tes méthodes.
Fred, on n'a pas dit une, donc il ne pouvait pas trouver.
C'est faux, j'ai dit Indiana, tu vois.
Donc ça fait 4 points pour Arnaud, 1 point pour Steve et 1 point pour Fred. Alors, on va parler de la meilleure saison des Pelicans. J'ai dû chercher pour trouver la meilleure saison des Pelicans. Hein. 2007-2008. Deuxième à l'Ouest et demi-finale de conférence. Ils n'ont jamais fait mieux qu'un tour de play-off passé, les Pelicans.
C'est les Pelicans ou c'était les
Pelicans.
New Orleans Hornets ? C'était les Pelicans ?
C'était la nouvelle...
C'est la Nouvelle-Orléans.
Pourquoi ça a changé de nom ?
Parce que Charlotte, c'était les Bobcats, ils ont récupéré les Hornets. Mais je pense qu'on parle même de la Nouvelle-Orléans.
Nouvelle-Orléans, oui, absolument. Nouvelle-Orléans, bon. On vérifiera, mais bon, peu importe, c'est la Nouvelle-Orléans 2007-2008. Okay, cette année-là, qui est à la fois meilleur marqueur et meilleur passeur des Pelicans, enfin des Pelicans de New Orleans.
Stephen Jackson ?
Non. Ah, mais Fred, réfléchis, tu te creuses la tête. Si c'était facile, ça n'aurait aucun intérêt.
Non.
Passeur et marqueur.
Non.
Ah, c'est pas André si Miller. Dur. C'est pas si dur, je vous le dis tout de suite, c'est pas si dur.
New Orleans.
Vous allez le trouver. Hein.
J'ai aucun souvenir de cette équipe.
Moi non plus.
Baron Davis. Un jeune joueur prometteur qui a fait sa carrière ailleurs et qui, comme James Harden, a beaucoup changé de franchise. Non. Chris Paul. Oui.
Ah,
c'était les Hornets.
Alors,
mais oui.
Comme quoi, donc désolé pour les Pelicans, c'était les Hornets. Comme quoi, tu vois, Fred, tu cherches, tu te concentres. Tu fouilles dans ta mémoire et
en fait,
tu trouves.
Il s'est fait siffler énormément. Est-ce que tu sais pourquoi il s'est fait siffler à ce point au Pels
Il avait demandé son...
CP3
Il avait demandé son Fred
CP3, non.
Moi non plus. Mais
C'est une vraie question.
Parce que j'étais hyper surpris.
Quand il revient, c'est-à-dire quand il revient jouer.
Que Draymond Green se fasse siffler, on sait qu'il a eu des propos, mais CP3, j'ai pas compris.
Parce qu'il avait demandé plein de trades et qu'il voulait partir.
Dernièrement, quand il est arrivé avec Golden State hier.
Il me reste une seule question, mais il y a plusieurs points à marquer. Donc chacun à votre tour.
C'est Arnaud Valadon qui a gagné.
Bah, on ne sait jamais, parce que chacun à votre tour, vous allez me donner un joueur starter dans au moins un match de la finale de conférence 2018 entre Golden State et les Rockets. Pensez bien à la réponse précédente, puisqu'il y a toujours une suite logique.
Oui.
D'accord ? Donc, on était sur Chris Paul, on passe à la finale de conférence 2018 entre Golden State et les Houston Rockets. C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
James Harden.
Et il y a pas mal de joueurs très faciles à trouver. Ok, c'est bon pour tout le monde. Les starters uniquement.
Ah, les 2-5
starters,
départ.
Parce que sinon après c'était ingérable.
Il
y avait trop de joueurs et des joueurs trop obscurs. Donc starter au moins une fois. Finale de conférence 2018. Steve, c'est toi qui démarres.
Chris Paul,
bravo. À Fred, pardon.
James Harden.
James Harden, bien entendu, puisque donc Chris Paul et James Harden ont fait cette finale ensemble. C'était la logique de la question précédente. Arnaud Valadon.
Stephen Curry.
Stephen Curry, c'est bon. Stephen Brun.
Draymond Green.
Draymond Green, c'est bon. Fred Weiss.
Clay.
Clay Thompson, c'est bon. Arnaud.
KD.
KD, c'est bon. Vous êtes à deux bonnes réponses chacun. Alors, ça va commencer à se raréfier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Il reste 6 joueurs.
Il reste.
Steve, tu peux encore gagner. Hein. Tu peux encore gagner.
Je peux encore gagner. Bah ouais, ouais. Cette équipe de Houston, elle ne me parle pas du tout. Je vais dire PJ Tucker.
PJ Tucker, c'est bon. Ça fait un troisième point pour Steve. Fred.
Est-ce que Kevon Looney était déjà là?
Kevon Looney, c'est bon, oh mon cher. Bravo, Fred. Arnaud.
Il y a d'autres joueurs des Warriors qui ont starté un match de
il
ce
reste
match-là.
Un. Il vous avait donné 5 joueurs des Warriors, il y en a un autre.
Qui start,
oui. Qui start au moins une fois, mais qui n'a pas démarré les 7 matchs, parce que c'est une finale en 7 matchs. Et il en reste 3 du côté de Houston.
Est-ce que je le tente celui-là, mais...
Tente-le, si t'as que lui, tente-le.
Non, j'en ai 2.
T'en as 2.
Potentiellement Houston. Allez, je vais dire que c'est un peu plus militant encore ou pas, je ne sais plus. Capella?
Clint Capella, bah bien sûr.
Ouais, ça, j'avais ça.
Donc ça fait 3 bonnes réponses chacun.
J'avais ça.
Ouais.
On revient à Steve.
Mais là, j'ai plus.
Ah, ça peut encore se trouver. Hein. Là,
Eric Gordon.
Eric Gordon, c'est excellent. Parce que Eric Gordon a donc remplacé Chris Paul qui se blesse et qui fout la série en l'air. Il menait 3-2. Ils perdent 4-3. Et donc, c'est bon pour Eric Gordon. C'est à Fred.
Il y a eu quelques flashs, hein, d'ailleurs.
Fred, il m'en reste 2. Alors, c'est pas des inconnus, hein, mais c'est pas forcément les 2 premiers auxquels tu vas.
Pas les inconnus, donc
penser.
C'est pas Pascal Légitimus, ni Didier Bourdon.
En revanche, à Golden State.
Moi, j'aurais dit Iguodala.
Et bah, t'aurais bien fait de dire
Iguodala. Oh non, il me la pique.
Même si t'as dit Iguodala, je te l'attends.
Ah non, c'est pas bon, il a dit Iguodala, c'est pas bon.
Ouais, c'est bon.
On a refusé Van Gundy.
Ouais, ça n'a rien à voir, c'est deux frères.
Bah, Igo et.
Il y a un autre frère.
Arnaud, t'auras gagné quand même, mais pour la beauté du geste.
Est-ce qu'on va finir le jeu?
Il reste un nom à trouver.
Il me reste Iguodala, c'est l'autre que j'avais. Donc, il reste un joueur à Houston.
Ouais,
un joueur à Houston. Vous pouvez le trouver.
C'est en poste 4.
C'est pas si simple, mais vous pouvez le trouver.
Arden,
s'il y a PJ Tucker, il n'y a pas de poste 4 et il y a Clint Capella, donc c'est pas l'intérieur.
Donc un poste 3.
Parce que les deux, ils ont tous joué.
Non. Parsons?
Non.
Chandler Parsons.
Alors, Arnaud éliminé, mais tu auras gagné le quiz quand même avec 7 points. Steve, est-ce que tu l'as?
Houston. Je vais tenter Trevor Ariza.
Excellent, bravo.
Ah oui,
Steve.
Bien joué.
Tu auras échoué à un seul petit point d'Arnaud qui remporte ce quiz. C'est un quiz très serré. 7 points pour Arnaud, 6 pour Fred, 6 pour Stephen. Bravo messieurs, à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.